rapidement, juste avant de refermer ce journal, information en provenance d'Haïti. Edgar Leblanc-Fils vient d'être choisi comme président du Conseil de transition.
Bonjour, je suis Mélanie Alétru, directrice du Chabada, la salle des musiques actuelles d'Angers. Le Chabada, en 2024, fête ses 30 ans. 30 ans d'histoire, de musique et des milliers de groupes programmés. Nous vous proposons de découvrir l'histoire de cette salle au travers d'une mini-série de 3 podcasts, Petite Histoire et Grande Histoire du Chabada. Écoutez-nous à partir du mois de mars sur les plateformes de podcast, dans les programmes de Radio G et de Radio Campus Angers. Vous trouvez toutes les informations sur notre site internet. Ce programme est soutenu par le PNV, Programme d'État. Bonne écoute à vous et à bientôt au Chabada.
Aller-retour, Angers, Austin, Bamako, le deuxième épisode de cette série de podcasts dédiée aux 30 ans du Chabada. Le vendredi 3 mai à 17h sur Radio G 101.5 FM ou radio-g.fr.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Bonsoir et bienvenue, vous êtes bien à l'écoute de Topette ce soir, émission un petit peu spéciale car je prends la place de Pierre Benoît qui est à côté de moi. Tiens, pars-toi d'un micro, Pierre Benoît, bonsoir.
Bonsoir Mathéo.
Pas trop stressé à l'idée de me laisser les rênes de l'émission?
Bah non, je te fais confiance.
Eh ben c'est super. Le programme de la semaine, hier nous étions avec Julose et Nathan, deux humoristes du Angers Comedy Club, venus nous parler de leurs spectacles respectifs. On a aussi parlé piano et plus précisément Pianopolis. Si vous êtes passé à côté, vous pouvez vous rendre sur le site de la radio pour écouter le podcast. Une semaine plutôt courte, demain c'est férié donc pas d'émission, et jeudi l'équipe de Topette fait le point à l'initiative étonnante de Pierre Benoît. Ce soir c'est une émission best-of qui nous attend, les danseuses du clap, ma closette et ses vêtements de seconde main upcyclés, les garçons glaciers, leur glace et sorbets locaux. Voici le beau petit monde qui constitue le best-of du soir. Nous aurons aussi le droit à deux chroniques, celle de Nico et de Bruno, aux alentours de 18h30 et 18h40. Topette animée par Mathéo, ça commence tout de suite.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Et avant cela, comme tous les jours, un point sur l'actualité locale à Angers. On commence avec des alarmes qui retentiront de manière plus ou moins exceptionnelle dans le Maine-et-Loire. Ce sera jeudi, il s'agit là d'un test. Cela correspond aux essais mensuels des systèmes d'alerte et d'information des populations. Si le préfet a tenu à informer les populations méno-ligériennes sur ces alarmes d'habitude courantes, c'est car c'est le jour d'essai qui est décalé. Initialement, on peut les entendre tous les premiers mercredis du mois. Sauf que demain, le 1er mai, comme vous le savez, c'est un jour férié, donc les alarmes retentiront jeudi. Le cycle sonore de 3 séquences a pour but d'alerter les populations sur un risque imminent lié à une catastrophe naturelle ou technologique qui est prévue pour la mi-journée. On continue sur la journée du 1er mai, la fête du travail qui sera bien différente de celle de l'année précédente. Le premier jour du mois de mai 2023 sonnait comme une journée de protestation contre la réforme des retraites. Un appel à manifester avait été lancé par l'intersyndicale du Maine-et-Loire et avait débouché sur un rassemblement historique. 15 000 personnes s'étaient réunies à Angers, Cholet et Saumur. Et bien le 1er mai 2024 sera bien différent. La fête du travail de cette année n'a pas vu les syndicats s'unir faute de convergence d'opinion. Des manifestations sont tout de même prévues sur Angers. Ce sera contre la guerre en Ukraine et en Palestine à partir de 10h30 place Saint-Bac. Certains syndicats ont réussi à se réunir pour ce rassemblement. C'est le cas de la CGT, du FSU Solidaire, de l'UNEF et du MLF. Dans le reste de l'actualité, un stand Greenpeace sera présent sur Angers ce week-end. Alors que le Maine-et-Loire a connu un épisode de crue quasi inédit, Greenpeace Angers se mobilise cette semaine pour sensibiliser les habitants au risque du changement climatique sur leur quotidien. Nul doute au vu de la date que le réchauffement de la planète a eu une incidence sur l'élévation des cours d'eau. Ce sujet sera traité tout comme celui des autres événements climatiques extrêmes tels que les inondations et les incendies. Dans ce cadre, Greenpeace Angers tiendra un stand samedi de 10h à 19h rue Les Neveux. Au niveau de la météo, le temps de demain va drastiquement changer. Le ciel sera totalement couvert et la pluie accompagnera la totalité de votre journée. Les températures iront de 10 à 11 degrés. Et rappelez-vous, en tout début de saison, nous avions reçu Isaïe et Laure du Clap, une plongée dans les années 20 par la danse et les tenues, c'est ce qu'ils nous expliquaient.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Et bonsoir
Isaïe.
Bonsoir.
Vous êtes tous deux membres du CLAP. Alors Isaïe, toi t'es le chorégraphe.
Ouais, c'est ça.
Et Laure, tu danses.
Exactement.
Parmi toutes les autres danseuses, puisque ce ne sont que des filles.
Absolument.
Absolument, et tu nous diras tout à l'heure pourquoi. Amérique des années folles, donc on est plutôt dans les années 20, selon mes estimations, rythme swing, charleston, donc plutôt du jazz, j'ai l'impression, à l'ancienne. Et il y a les vêtements aussi, hein, les robes, les coiffures et les bretelles, et surtout la casquette. On va peut-être parler du club. Qu'est-ce que c'est qui veut nous se lancer pour nous présenter ça? C'est une asso pour s'amuser en fait.
Ouais, complètement. Alors c'est une formation. Donc club, ça veut dire chorus line angevine pim pam poum. Ça fait référence à des groupes féminins des années 20-30, effectivement, il y a une centaine d'années. Et voilà, donc c'est une création qui a 3 ans maintenant. Et Laure fait partie des premières personnes qui ont participé et qui participent encore à ce groupe. Ce qui est important, c'est que dans notre univers swing, on va dire, c'est une référence qui existait, ces groupes de filles qui pouvaient être derrière un chanteur, etc. Et puis progressivement, bah, elles ont pris le devant de la scène. Et puis la reine de ces danseuses, bah, c'est Joséphine Baker, que tout le monde connaît, comme ça on voit à peu près de quoi on parle. Donc Laure, elle a intégré cette troupe. L'idée, c'était de travailler en dehors justement des cours de danse, de l'apprentissage, et d'emmener des femmes, des filles qui sont sur scène devant un public pour performer des chorégraphies de cette époque-là, soit du répertoire, soit des choses que j'ai créées moi-même, des chorégraphies.
Donc c'est toi qui as créé le clap, Isaïe ?
Ouais, je l'ai lancé en plein Covid. J'avais des fourmis dans les jambes et donc je me suis dit tiens, mais il y a un projet que j'ai depuis quelques années en tête. C'est le moment ou jamais de fédérer un petit groupe de personnes autour de chorégraphie. Chacun chez soi, on partage des vidéos, on essaye d'apprendre et puis après on se voit pour caler un petit peu la chorégraphie.
Et Laure, à quel moment tu interviens dans l'histoire? Tu étais à la création originelle ou tu as pris le clap en vol?
Alors moi j'étais là dès le départ. En fait, Isaïe avait cette idée, en a parlé à quelques danseuses autour de lui pour voir s'il y avait matière à intéresser du monde. Et donc on a démarré sur une formation un peu réduite au départ, je sais plus, on était 6 danseuses, ok. Et donc effectivement, on a commencé à répéter. Donc c'était dans les périodes de confinement, etc. Donc on se retrouvait au lac de Maine, dehors, parce qu'il faisait quand même relativement beau, et on s'entraînait là, en fait, quand on le pouvait. Et puis progressivement, au niveau du groupe, le groupe s'est étoffé. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le groupe, il y en a d'autres qui sont sorties. Il y a eu un petit peu de mouvement. Et actuellement, on est 9 quand on est en formation complète à danser.
Alors, où est-ce qu'on vous voit? Vous êtes sur les événements, c'est en fait vous préparez des sorties en joue vélo vintage notamment, c'est quand même assez raccord.
Ouais, alors ça c'est un peu les événements qu'on vise et qu'on visait dès le départ, c'est-à-dire des événements swing où il y a tout l'univers puis nous on vient alimenter via la danse. Donc c'est dans les festivals swing, les festivals un peu vintage, c'est quelque chose qui revient pas mal à la mode, donc généralement on est sollicité dans ces moments-là et on est en train, alors ce projet a complètement dépassé les idées que je pouvais avoir au début, hein, où je pensais juste faire quelques chorégraphies et puis danser de temps en temps. Là aujourd'hui il y a des sollicitations pour des mariages par exemple, pour faire une initiation puis des shows, il y a des sollicitations dans des cadres complètement déconnectés du swing ou du vintage, donc c'est ça qui a permis de développer l'activité.
Et justement, oui, vas-y Laure.
Dans des fêtes de quartier, des fêtes de village, et après on reste principalement rattaché aux événements swing, mais pas que.
Juste pour, tu parles d'activité, Isaïe, vous êtes, du coup, c'est votre activité professionnelle, le clap, ou c'est, ça s'adresse à des danseuses amatrices?
Alors moi, j'enseigne le swing depuis une dizaine d'années. J'ai une autre activité professionnelle, mais ça, je le fais professionnellement aussi. Bon, j'ai d'autres activités artistiques, on va dire, j'ai une vie du soir, hein, et la danse en fait partie. Pour l'anecdote, en fait, quand j'ai commencé, j'étais en doctorat et j'avais besoin de me vider la tête un peu le soir. Et donc j'ai commencé à danser tous les soirs et rapidement je me suis mis à enseigner. Tout ça c'était à Montpellier. Et quand je suis arrivé à Angers, bah, j'ai repris une activité d'enseignement. Donc voilà, semi-pro on va dire. Et pour
les danseuses, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on a toute une activité professionnelle à côté, mais on prend le projet vraiment à cœur. L'idée c'est de s'investir et d'en faire un truc chouette.
Je n'oppose pas professionnalisme amateur avec qualité. Hein. C'est pas sur ce registre-là. En tout cas, ça veut dire que toi, c'est pour du plaisir en plus.
Oui.
mais pris très à cœur.
Absolument.
Si je comprends bien.
Tout à fait.
Si on parle des danses, du coup, pour parler un petit peu technique, chorus line, lindy hop, en couple ou en solo swing.
Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de swing, on parle plutôt de musique. Donc les années 30-40, avec des formations donc plutôt Charleston au début, années 20, rythmiquement, tcha-pou, 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 ça va donner ça. Puis petit à petit, avec les big bands, ça a commencé à swinger. Swinger, c'est ta-ti-ti-ti-ta-ti-ti-ti-ta. Et donc ces formations musicales ont généré de la danse. Donc c'est la grande époque des claquettistes. Donc il y a... clairement un aspect spectaculaire chez les claquettistes, donc dans les cabarets, faut voir l'ambiance un peu, hein. Si vous avez vu des séries sur l'époque, c'est la prohibition, c'est des grands shows, des grands cabarets avec de l'argent qui arrive à flot et de l'alcool dans l'arrière-boutique.
Asie Artiste par exemple, c'est ça. On est là-dedans.
Ouais. Exactement, c'est la période. Et donc les danseurs, il y avait une culture de danse, on savait pas trop ce qu'on dansait, donc on dansait soit à deux, soit tout seul. Et petit à petit, ça s'est instauré comme une vraie discipline. Et il y a vraiment deux courants qui sont nés à ce moment-là, des danseurs qui ont commencé à vouloir concurrencer les claquettistes dans le côté show, et donc ils ont fait les premiers aerials des acrobaties. Donc ça vient du lindy hop. Dans la danse à deux, on lance notre partenaire, homme ou femme d'ailleurs. Les premières accros, c'était un homme qui était soulevé par Big Béa, une femme qui était beaucoup plus grande que lui. Donc ça a été la possibilité pour les danseurs, mais justement d'en vivre, de faire des shows et de participer au cabaret de l'époque. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle nous la danse sociale, c'est-à-dire on apprend à danser. Et un peu partout dans le monde, si je suis danseur de lindy hop, je peux danser avec quelqu'un qui apprend cette danse-là. Donc le lindy hop, c'est la danse à deux. Et après, dans les danses solo, donc on parle beaucoup du charleston parce que c'est rythmique, c'est un peu soutenu, donc ça nous engage à danser. Et de jazz roots sinon. Voilà, mais tout ça a des origines afro-américaines, faut le dire, hein. C'est de la musique noire, donc on clappe sur les deux et les quatre rythmiquement, et derrière ça s'est développé, voilà, danse sociale et danse de show.
Le style vestimentaire quand même est symbolique d'une époque, du coup on est, pour préciser bien précisément, c'est 20, 30, 40 du coup.
Ouais, alors ça commence dans les années 20, et puis avec l'évolution de la musique, on va dire que ça va se professionnaliser dans les années 30. Donc on a plein de danseurs qui commencent à en embarquer d'autres, etc. Donc juste pour rappel, on est dans une Amérique qui est fractionnée, donc c'est la première danse où des blancs et des noirs vont danser ensemble, des hommes ensemble, des femmes ensemble, donc sur une période qui permet et qui a permis des choses assez incroyables. Donc notre danse, elle véhicule toutes ces valeurs et on peut pas danser le lindy hop sans s'intéresser un petit peu à cette histoire. Donc quand on enseigne le lindy hop, on transmet aussi une culture. Et il faut savoir que les Français, on n'a pas à rougir face aux Américains. En fait, le lindy et le jazz de manière générale est arrivé très très tôt en France. Malheureusement, à la faveur des guerres et des soldats américains. Et ensuite, on a accueilli des artistes américains qui étaient pas très bien chez eux, notamment Josephine Baker, hein, qui était une star internationale, mais qui était des fois refusée dans certains endroits aux États-Unis pour les raisons qu'on connaît. Donc c'est vrai que la France a commencé le swing très très tôt. On a Django Reinhardt qui est une figure du swing à la guitare, donc on a contribué depuis le début, on va dire, à cette culture. Et il y a toujours eu des danseurs en Europe et particulièrement en France de toutes ces danses là
Laure, tout à l'heure, Isaïe l'a précisé, dans le chorus line angevin, poum poum piloup
bim bam boum,
presque, un peu plus que tout à l'heure en tout cas, il n'y a que des filles, que des femmes. Pourquoi du coup?
Alors, l'idée originelle, je pense, d'Isaïe, c'était de coller au plus près à l'esprit de la chorus line. Et donc, comme il expliquait, c'était des ensembles uniquement féminins. Donc, on est parti sur ce principe-là, avec une volonté quand même de pouvoir faire une place aux hommes. Et donc, il arrive quand même régulièrement que sur des prestations qu'on fait, on invite des danseurs à venir avec nous pour faire des initiations, des démonstrations. Et puis, on va mélanger comme ça des chorégraphies de solo swing donc pour la chorus line et du lindy hop. Comme ça, ça dynamise aussi un petit peu et on laisse la place à tout le monde.
J'ai une petite question sur l'état des lieux. Enfin, comment la pratique est répandue en France aujourd'hui de ce type de danse? On sait qu'il y a, je crois, il y a 10 ans à peu près, ça, c'était pas mal ressorti les danses avec le shuffle et ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai bon ou pas quand je parle de shuffle? On est dans les
mêmes. Alors, le shuffle, c'est des claquettes, mais qu'on intègre en fait notre routine. Les lindy hoppers, on sait tous danser le chim-cham, qui est une vieille chorégraphie qui a été popularisée par Frankie Manning, qui est l'ambassadeur de notre danse. En fait, pour te répondre, il y a eu deux époques, c'est-à-dire que il y a eu les années 20, 30, 40 aux États-Unis il y a un siècle, et puis ensuite la musique elle a évolué et c'était plus du swing, c'était du bebop, et donc c'était plus dansable. Donc les danseurs se sont retrouvés au chômage aux États-Unis, ça va très très vite. Donc le fameux Frankie Manning, qui était la figure emblématique dans les années 30, est devenu facteur. Et en fait, c'est des danseurs européens qui sont allés le chercher en disant « mais il existe encore ce gars-là, on veut apprendre ». Il a fini sa vie à faire des tournées dans le monde entier pour transmettre la danse. Et moi, j'ai commencé il y a 10-15 ans et ça ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de danseurs. On n'est pas des scènes comme la salsa, etc., où il y a énormément de danseurs, les latines. Nous, c'est plus confidentiel, donc on se connaît quand même assez bien d'une scène à l'autre, donc d'une ville à l'autre. Et au niveau international, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va toujours se croiser dans les événements, donc c'est souvent les mêmes têtes. Et ce qui est chouette, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes. Donc il y a une base commune. Moi, quand je suis arrivé à Angers, j'ai su qu'il y avait des danseurs de swing. Je me suis rapidement fait des amis, quoi. C'est un peu l'idée.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Et pour écouter l'émission du 5 octobre d'où provient cette interview, c'est disponible sur le site de la radio. Pour l'heure, on part en musique dans une Amérique plus actuelle. On s'écoute F2F de SZA sur le 101.5 FM.
Sell my soul, wishing that it wasn't so hard, man, I'm on my knees. Get a rise out of watching you fall. Get a kick out of missing your goal. Now hate me enough for the two of us. Hate that I can't let go of you enough, this why I fuck them cause I miss you. I fuck them cause I really miss you. I fuck them cause I miss you. Sell my soul, wishing that it wasn't so hard, man, I'm on my knees. Get a rise out of watching you fall. Get a kick out of missing your goal. Now hate me enough for the two of us. Hate that I can't let go of you enough, this why I fuck them cause I miss you.
C'était F2F de Sisa, vous êtes à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM de Radio G. On parlait danse, on reste en mouvement puisque c'est l'heure de la chronique Circule Autrement avec toi, Nico.
Marre de l'auto ? Circule Autrement avec Nico dans Topette.
Bonsoir Mathéo, bonsoir Pierre-Benoît et bonsoir chers auditeurs qui pour beaucoup nous écoutent en voiture à cette heure, ce qui contraste avec ma chronique, je vous salue. Pourtant c'est la période du changement de mobilité pour certains d'entre vous, notamment ceux qui se lancent pour la première fois à vélo au travail. Depuis tout ce temps qu'ils se disent « je vais le faire », ça y est, enfin ils arrivent, ils sortent du nid, allez-y, volez mes petits et attention aux angles morts. Ils viennent se rajouter à la masse globale des commuters, ceux déjà en route. Alors j'aimerais rappeler quelques bonnes infos pour partager la voie publique de notre bonne vieille cité angevine dans la joie et la bonne humeur. Tout d'abord, l'ordre des priorités sur la voie publique, c'est le piéton, prioritaire sur le vélo, lui-même prioritaire sur la voiture. Bien souvent, le piéton et le vélo peuvent partager des zones communes. Dans ces endroits, les cyclistes se doivent de ralentir pour ne pas effrayer les piétons. N'hésitez pas à chercher du regard ceux que vous croisez, et si cela ne vous suffit pas, utilisez à volonté votre sonnette. Dans les zones partagées, un cycliste doit savoir mettre pied à terre, comme dans la rue Saint-Aubin ou la rue de la Fnac, car ce sont des rues piétonnes. Le cycliste n'est donc pas prioritaire. Sachez qu'il existe de nombreux aménagements en centre-ville d'Angers pour favoriser les déplacements doux et leur vie commune avec les voitures. Nous avons le sens interdit aménagé où un cycliste peut s'engager à contresens d'un automobiliste. Il est d'ailleurs prioritaire. Le tourne à droite au feu rouge, très présent à Angers, c'est un aménagement qui optimise votre temps de trajet puisqu'il n'y a presque plus besoin de s'arrêter. Il existe des feux de circulation vélo, créant ainsi des carrefours avec les voitures et le tram. La circulation de chacun est régulée. Plus sérieusement, nous avons les pistes cyclables isolées et sécurisées, comme les bandes de Copenhague et autres sections parallèles au tramway angevin, des voies larges, bien roulantes. Ce sont de vrais moyens mis en œuvre pour favoriser la mobilité urbaine. Tous ces aménagements sont principalement installés pour fluidifier la circulation et nous mettre en sécurité. Il ne tient qu'à nous de respecter le code de la route tout en faisant preuve de courtoisie pour en profiter joyeusement. Angers reste un exemple en France pour ce qui est de la mobilité urbaine. Et sur Radio G, on est fiers de vous en parler.
Merci Nicolas, on peut la retrouver où cette petite chronique, dis-moi ?
Eh ben en replay sur le site de Radio G dans l'onglet Podcast Plus et la rubrique Circule Autrement.
T'achètes des vêtements de seconde main un petit peu parfois ?
Oui, régulièrement, ouais.
Eh ben ça va te plaire alors puisqu'on passe ou repasse pour ceux qui l'ont déjà écouté l'interview avec Mac Lozette. Lola Decoste nous parlait de sa friperie de seconde main upcyclée, c'était au micro de Corentin.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Bonsoir à tous. Ce soir, on accueille Lola Decoste. Bonsoir Lola.
Bonsoir.
Lola, tu as 22 ans, tu es alternante en communication à Audentia. Et en plus de tes études le 26 mai dernier, tu as lancé ta propre affaire, Ma Closette, une entreprise de seconde main. Tu es présente en ligne sur Vinted et en physique dans deux boutiques à Louise et The Final Cut. Mais Ma Closette, qu'est-ce que c'est Lola ?
Alors, Ma Closette, comme tu l'as si bien dit, c'est une friperie angevine qui propose deux offres, à la fois du coup des vêtements de seconde main qui vont être en fait revalorisés. Le principe, c'est vraiment d'amener un produit comme neuf, malgré que ce soit de la seconde main. Donc, tous ces produits-là, on va les chiner sur le territoire de l'Anjou. C'est des vêtements qui sont modernes et au goût du jour. Donc, ils vont tous passer par un processus de lavage, de repassage. Il y a une valorisation de la pièce si besoin. Et le principe, c'est vraiment de reprendre tous les codes marketing et communicationnels du prêt à porter neuf pour démocratiser justement l'activité de la seconde main et tout ça avec le respect du calendrier de la mode qui a été régi par le prêt à porter neuf. Et une deuxième offre qui est aussi l'upcycling. Et donc là, ça va être à partir de vêtements de seconde main qui sont tachés, usés, usagés, etc. On va en refaire de nouvelles pièces. Donc par exemple, on a fait une collection à partir de chemises d'hommes. On les a transformées en chemises pour femmes en rajoutant des bouts de tissu à partir de draps, de traversins, etc. Et le but, ça va vraiment être de réutiliser toutes les matières possibles pour créer un nouveau vêtement à partir de ce qui existe déjà.
Donc tu nous parlais d'upcycling, c'est un petit peu le concept justement de Ma Closette. Donc tu récupères ces vêtements en friperie dans le département et ensuite tu les remets au goût du jour. Mais comment se fait ta sélection sur chaque vêtement ? Est-ce que tu as un modèle en tête avant d'aller en magasin ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a beaucoup de réflexions avant, plein d'idées de vêtements tout le temps. Il faut faire des choix après dans les vêtements qu'on va choisir. Ensuite, généralement, pour la
par exemple la collection de chemises, je me suis basée sur des chemises d'hommes. Je suis partie de cette base-là. J'ai sélectionné donc plein de chemises d'hommes, les motifs qui me plaisaient, etc. Aussi des chemises qui étaient forcément tachées, parce que c'est quand même le principe. Et derrière, avec chaque chemise, une fois qu'on a la base, on va aller chiner tout ce qui est drap, tissu, vraiment de tout et n'importe quoi, tant que c'est du drap, du tissu, enfin quand c'est de la matière en fait qualitative et durable. On sélectionne en fonction des motifs et derrière chaque chemise a, on va dire, un modèle particulier et en fonction du motif choisi, on va plus ou moins aller dans certaines techniques, on va dire. Donc par exemple certaines chemises avec des dos nus, d'autres non. On essaye de faire plusieurs styles possibles, mais on reste sur la même base de modèle.
Et donc tu parlais tout à l'heure tu recycles donc les vêtements, tu les modifies, il y a un travail de couture aussi derrière, mais qui est remplit ce rôle. Toi, tu laves les vêtements, tu les mets en ligne, tu fais toute la com. Est-ce que tu fais aussi ce rôle de couturière?
Alors, je fais pas le rôle de couturière. Je le fais que pour des petits chouchous, des choses comme ça, vraiment sur les chutes de tissus. Mais ce qui va être sur la production de vêtements, je me suis rapprochée d'une couturière locale qui est basée à Beaupro. Et donc, je travaille avec elle et elle s'occupe de la production et moi, je vais imaginer la collection.
C'est Priscilla, c'est ça, hein?
Non.
Comment elle s'appelle?
Alors Priscille, en fait, c'est le bazar de prunes. Donc Priscille, c'est une collègue, on va dire, puisqu'en fait, on s'est rencontrés ensemble dans le cadre de mon alternance. On est devenus amis et en fait, on a découvert une passion commune pour la seconde main. Elle, c'était les objets et moi, les vêtements. Et donc, en fait, on fait beaucoup d'événements ensemble, mais on est quand même deux entreprises distinctes. Et la couturière, non, c'est quelqu'un d'autre dont j'ai pas forcément parlé d'ailleurs sur mes réseaux sociaux.
Et donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc pourquoi t'as décidé de lancer Ma Closette. Mais j'aimerais revenir sur un petit peu les styles de vêtements. Donc tu les choisis en friperie. Mais à qui s'adressent justement tous ces vêtements? Tu parlais tout à l'heure de chemises d'hommes que tu transformais en chemises pour femmes. Est-ce que ça s'adresse qu'aux femmes?
Alors, pour l'instant, oui. J'aimerais à terme, proposer aussi des choses pour les hommes, mais pour l'instant, avec le temps que j'ai, je me concentre sur les femmes. Donc, au niveau des femmes, dans ma clientèle, je pensais être sur une clientèle jeune, et au final, au fil du temps et de quelques événements que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'on était plus sur une tranche, entre 16 et 40 ans. Ça peut vraiment varier. Et au niveau des vêtements, ça va être un style moderne au goût du jour. Et le principe, c'est justement de pas avoir ce style très vintage sur lequel il y a beaucoup de friperies qui sont déjà, mais plutôt un style qui reste dans l'air du temps plutôt que des anciennes années. Donc on reste quand même dans les tendances au maximum.
Et donc on parle de tendances. Les friperies, en général, les prix sont très abordables. Est-ce que toi, c'est ce que tu proposes aussi chez Ma Closette? Est-ce que c'est des prix assez abordables?
Oui, c'est des prix plutôt abordables. Au niveau de la seconde main, on est sur des prix qui sont entre, je dirais, 10 et 25 euros à peu près. Et ensuite, sur l'offre upcycling, forcément, il y a un travail derrière. C'est fait de manière locale. Donc aujourd'hui, on essaye de faire en sorte d'être le moins cher possible, mais on reste sur un coût, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à comparer les prix par rapport à la fast fashion, etc., où on n'a pas du tout le même travail derrière et la même façon de faire. Donc aujourd'hui, on essaye au maximum d'être le moins cher sur l'offre upcycling, mais ça prend du temps.
Et je reste un petit peu sur ces prix parce que j'ai vu sur ton Instagram, en fait, il y a un calcul qui est fait pour chaque vêtement. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, en fait, le principe, c'est que quand on va vendre un produit, le principe, ça va être de proposer la marge la moins chère pour nous derrière, en fait, et de vendre le produit le moins cher possible. Donc, dedans, on va inclure... en fait, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte quand on n'est pas dans une friperie, parce qu'on a tendance à se dire, c'est de la seconde main, on revend de la seconde main, quelle est la plus-value derrière? Mais en fait, la plus-value, elle va se trouver déjà dans le lavage, tout simplement, dans la revalorisation aussi du vêtement, parce que en fait il y a plein de vêtements qui sont très bien et on va juste avoir un tout petit défaut, et donc il y a plein de petits travails de revalorisation, de toutes petites coutures comme ça qui va aussi être inclus dans le prix. Le temps de la communication, dans la communication, ce qui est le plus gros à faire, ça va être tout ce qui est shooting photo, etc. C'est assez long. Ensuite il y a une marge aussi pour quand même se faire un bénéfice, et voilà.
Et donc les shootings photos, il y a combien de personnes dans cette entreprise finalement? Parce qu'il y a donc le lavage, la couturière, Tu parlais des shootings photos. Combien vous êtes en fait dans chez Ma Closet?
En fait, je suis toute seule. En fait, je vais aussi beaucoup m'aider de prestataires, on va dire externes, et aussi avec mes amis qui se font une joie d'être mes mannequins du dimanche. Je vais plutôt travailler avec des partenaires qui vont être des photographes qu'on va payer plutôt en prestation. Et la couturière, pareil, c'est en fait à partir du moment où j'ai un projet, on va le réaliser ensemble. Mais sur l'année, je suis toute seule sur le projet.
Topette.
Une interview issue de l'émission du 19 janvier 2024, un mois qu'il n'était pas venu pour nous faire sa chronique. Le 2 avril, tu nous parlais de la série Le Problème à trois corps. De quelle manière va-t-on rester scotché sur notre canapé? Réponse tout de suite avec toi, Bruno, grâce à ta chronique. On fait quoi?
C'est l'heure de ne plus rien faire. Voici la chronique « On fait quoi ?» de Bruno dans Topette.
On fait quoi? C'est la chronique de l'auditeur qui larve sur son canapé avec son paquet de chips et qui veut quand même faire quelque chose, mais sans se prendre la tête. En cette veille de 1er mai, j'ai pris un peu d'avance et je suis parti en vacances. Je vais donc laisser aux IA le soin de faire ma chronique. Autant qu'elle serve à autre chose qu'à nous faire peur. Donc, s'il te plaît, Pierre-Benoît, est-ce que tu peux relancer le générique? Et puis moi, je me casse.
Ah bah super, voilà, bah comme ça, on part en vacances et en plus on me donne des ordres. Bah, je me demande ce que va être ta chronique. Bon, on relance donc. Alors, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, eh bien, on vous fait des propositions dans « On fait quoi ?».
C'est l'heure de ne plus rien faire. Voici la chronique « On fait quoi ?» de Bruno dans Topette.
On fait quoi ? C'est la chronique de l'auditeur qui larve sur son canapé avec son paquet de chipsets et qui veut quand même faire quelque chose, mais sans se prendre la tête de lecture. Une chronique donc tout en IA qui va parler et dire. Autant parler de ce qu'on connaît, puisque c'est nous. Alors, comment s'occuper avec l'IA? Eh bien, en regardant des productions audiovisuelles qui ne sont pas produites directement par les mains de l'homme, mais par un programme informatique qui a pillé sans vergogne les créations humaines pour en faire du son et des images. Autant vous dire, comme toute nouvelle technologie, l'IA fait peur. D'un côté, la manipulation. Imaginez que bon nombre de personnes posent la question « Pour qui dois-je voter aux européennes ?» Qui, derrière, peut influencer la réponse pour influencer l'avenir de la démocratie? Mais bon, c'est pas le propos, on est là pour se détendre sans se prendre la tête de Delco. Alors tout d'abord, une série à ne pas regarder. Elle est très mauvaise. Par contre, et ça fait polémique, son générique a été entièrement généré par une IA, alors que des créateurs auraient pu être engagés pour ça. La série est Secret Invasion sur Disney+, c'est un Marvel, et si vous êtes curieux, eh bien, allez voir le générique, il est fait avec une IA, mais pas la peine d'aller plus loin. Une autre production IA encore plus impressionnante à regarder, c'est le court-métrage Dog and Boy. Si les personnages ont été dessinés par des humains, les décors et la musique ont été générés automatiquement. C'est vraiment bien fait, mais ce qui a choqué, c'est le générique de fin. En effet, pour la première fois, l'IA a été créditée dans les noms des personnes créatrices de la série, officialisant le remplacement de l'homme par l'IA. Ce court-métrage, produit par Netflix, est disponible gratuitement sur YouTube. Il suffit de chercher Dog and Boy. Sinon, vous pouvez écouter des covers chantés par des IA. On vous en a sélectionné une bien étonnante. Suite à la polémique sur Yana Nakamura qui chanterait du Piaf pour l'ouverture des JO, l'instagrammeur David Nimal a imaginé qu'au contraire, ce serait Edith Piaf qui chanterait Dja Dja.
Oh Dja Dja, y a pas moyen Dja Dja, j'suis pas ta catin Dja Dja, genre en katana baby, tu dead ça.
Alors oui, on le répète, l'IA fascine autant qu'elle fait peur. Mais comme les grandes révolutions, il faudra se réinventer. Il est donc urgent d'apprivoiser cette technologie pour ne pas se perdre.
Oui, mais bon, si vous voulez écouter de vraies voix humaines sur de vrais sujets humains, il y a toujours mon podcast sur Hervé Bazin qui est disponible sur le site de Radio G.
Maintenant, vous savez quoi faire. Vive le canapé, vive les chips, vive Topette.
Et merci Bruno, tout comme Nicolas, ta chronique, on la retrouve sur le site internet de la radio. On va consommer des glaces bientôt ce soir dans Topette, un petit peu plus local grâce au Garçon Glacier. C'est après Bleu Marine, le Colors de Jawel Hussein sur Radio G 101.5 FM.
Je connais la vie, je connais sa vitesse. Je te laisse avant qu'on s'attache. Je connais les chansons love puis se détestent.
ça te blesse quand elle tourne sa page. Je connais l'appétit, je connais les chances que les refrains saccagent. Je connais le grincement que fait l'appui tête. Puis peut-être faudrait qu'on s'arrache, prendre un raccourci. La thune, c'est même pas le souci. Je vais le faire si j'ai dit que je vais le faire. Je m'en fous, rien n'est impossible. J'ai pas peur de sauter dans le vide. J'y trouverai toujours de la nuance et des teintes. C'est eux qui nous foutent dans des cases. Un artiste de rue fait la même chose que des peintres. Chérie, si on ne se parle plus, je vois pas l'intérêt. Puis dans ce cas, il faut éviter de se dire qu'on s'aimera pour la vie. J'ai le cœur de bonde, je suis dans Skyfall. Je n'envoie même plus les SOS, de peur que le message se perde dans les timbres. Des fois, je me sens tellement seul que je regarde même pas la télé. Pourtant, je refuse de l'éteindre parce que je suis pas mieux dans le vide. J'envoie seulement de la caridad. Hein? Ces abrutis n'ont pas la notion. Remplis ton cali. Pour tuer un poste, ma trempe, faut beaucoup de potions. Y aura des parissades, hein? Hein? Donc y aura des flics libérables sous caution. Là, c'est du sport extrême. Là, c'est du parapente. Dommage qu'il n'y ait plus d'archives pour prouver que les Yonards de Vinci m'a peint un rapant. Est-ce que tu ne vois pas le rapport? Tout ça pour dire que je suis attiré par la pente. Je sors avec des potes, on fait le bruit. T'as l'impression de te faire accoster par un pompe. Et elle a qu'une photo, puis deux photos, puis c'est le dilemme. Elle veut seulement qu'un négro certifié s'ajoute à la longue liste de ses DM. Tu connais déjà gros, c'est le piège, une piège, je me colle à 7h tous les PM. Parce qu'elle est bonne, elle veut ce qui sort les DM. Faut que je retourne ta fille, on se rappelle du premier pas du 7ème. J'ai fait le nécessaire, regarde ses cernes. Ils font que dalle et le ciel s'écroulera bien avant que j'appartienne à ce cercle. Je m'en fous si ça manque d'humilité, ils ont pas la carrure pour porter ma sable. Je suis sur la route, un concert dans chaque ville viendra pour répartir les massacres. Hey. Je suis venu les mains sales. Je sais pas s'ils ont tout ce que je recherche, mais dans le doute, autant ramener un sac. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'essaye de vivre. Ah ouais. Je me perds trop souvent dans ma mémoire. Je veux m'envoler, ne plus jamais toucher le sol. Je m'interroge sur moi, même tard le soir. Je me casse la tête pour faire ce truc comme personne l'a fait. J'ai vu la lumière et plus long. Ah, tu connais le schéma. Je suis sorti faire du blé. Et je n'ai pas su retrouver le chemin de chez moi. Je suis parti trop loin. Trop loin.
De retour à l'écoute de Topette après Bleu Marine, le Colors de Jay-Way Lucein. Tiens Thomas, on part toi d'un micro. Je vois que tu rêvasses un petit peu, ça te parle les glaces?
Ça me parle de fou.
Une marque préférée peut-être?
Agendas, les sneakers glacés et les Twix cassés.
Voilà, c'était Thomas, stagiaire de justement, tu vas prendre plaisir parce qu'on reçoit les garçons glaciers. François et Emmanuel étaient venus dans l'émission nous parler de leur boutique.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Emmanuel et François, c'est vous les garçons glaciers. Vous êtes deux associés qui avaient proposé du coup ce concept, garçons glaciers, avec des produits locaux. On va pas très loin à chercher les saveurs, mais on cherche avant tout l'authenticité, le bio aussi. Hein, c'est labellisé bio, si je ne m'abuse. Et on a des petits échantillonnages avec nous en studio. Alors, François, si tu attrapes la petite boîte qui est juste là, est-ce que tu peux nous parler de ces produits? Ce sont des sorbets, des bâtonnets, comment on appelle ça dans le métier?
Alors, c'est une petite création. En fait, après les temps forts de Noël notamment, on profite du mois de janvier pour innover. Cette fois-ci, c'est la troisième fois qu'on s'attaque à ce projet-là et on a décidé de le décliner dans une plus grande largeur puisque ce produit provoque de l'engouement. Il a le bénéfice de rappeler notre métier, donc qui est bien de faire de la glace. Donc, le format, ça va être ce qu'on va appeler un bâtonnet ou un esquimau pour... Le nom donné à la grande consommation. Et en fait, on en profite pour faire de la guimauve sous forme d'esquimau. On a décidé d'appeler ça esquimauve et on le décline de plein de façons différentes. Notre métier est super agréable là-dessus puisque on peut le dupliquer de plein de façons. Donc, on a un cœur à la vanille, on a un cœur à la vanille tonka, on a un cœur au miel aussi avec un producteur local qui partage le marché sur la place Lafayette. Monsieur Denis Chaud, pour ne pas le citer. Et puis du coup, on peut, sur la coque, varier les plaisirs. Donc, c'est-à-dire du chocolat au lait avec des amandes et des noisettes, du chocolat noir, du chocolat aux fruits, puisqu'on a développé une technicité là-dessus. Donc, on arrive à faire du chocolat avec différentes parfums. Donc, autour de la framboise, autour de la fraise, etc. Et voilà, donc la période est un peu plus creuse pour nous, puisque les gens, après les fêtes, font un petit break, hein. C'est pas la période où l'engouement de la glace est là, le temps nous le rappelle. Et donc du coup, nous pour autant, on a des équipes à faire travailler, de la jeunesse à former. Et on en profite en parallèle de la transformation des fruits de saison, puisque la nature nous donne des denrées 12 mois sur 12 à fabriquer. En parallèle de ça, on crée de l'innovation, on fait de la recherche et du développement et on varie les plaisirs.
Donc là, ce n'est pas tout à fait une glace, finalement, parce qu'on est à température ambiante, elle n'est pas en train de fondre, François, si je comprends bien. C'est bien ça, hein ?
C'est bien ça.
Voilà, on est sur un produit dérivé, mais la glace reste quand même le cœur du métier, c'est dans le nom, garçon glacier. Donc j'imagine qu'il y a des réfrigérateurs au local Square Lafayette, au 4, si je ne m'abuse même.
Oui, le laboratoire est équipé pour notre cœur de métier, mais ce format rappelle notre métier, et c'est un petit clin d'œil qu'on fait. C'est un produit qui est sec. Donc c'est vrai que d'un point de vue commercial, ça nous change la vie, puisqu'on n'a pas la technique du froid. Donc on peut se déplacer, on peut aller chez nos voisins, que ce soit à Nantes, à Tours ou ailleurs, à la rencontre, présenter de nouveaux produits, montrer que l'entreprise est de plus en plus vivante et qu'elle propose des nouveautés en permanence. Et ça, c'est super important, puisqu'on se rend compte que les clients, que ce soit professionnels ou particuliers, nous attendent vraiment au tournant. Ils nous attendent de la diversité, de la nouveauté, qu'on les surprenne. Et ça, depuis 6 ans maintenant, on a bien pris le pli.
Emmanuel, tiens, parlons des clients de l'entreprise. Alors, il y a un local, il y a aussi de l'événementiel. On a aussi un lien avec les particuliers. Vous faites de la livraison. Comment ça marche, les garçons glaciers ?
Alors, aujourd'hui, effectivement, on s'est intéressé aux différents canaux qui sont intéressés par la glace. Et donc, on travaille auprès de particuliers. Notre laboratoire, il est historiquement installé Place Lafayette, qui accueille le marché le mercredi et le samedi matin, sur lequel on est bien sûr présent, et là où on est proche de nos clients consommateurs. Et puis, effectivement, on travaille avec des restaurateurs qui nous accompagnent aussi depuis le début de l'aventure pour certains. Et puis, on a développé une offre autour de la proposition de nos services et de nos produits sur différents types d'événements, que ce soit des événements d'entreprise, pour célébrer des moments clés de l'existence des entreprises, et puis aussi des événements de particuliers qui souhaitent pouvoir surprendre et offrir un produit un peu différent à leurs invités à l'occasion de leur mariage, d'un anniversaire ou de plein d'autres choses.
Pourquoi ces valeurs, pas environnementales, mais biologiques, pas de produits chimiques, c'est une plus-value commerciale ou ce sont de véritables convictions?
En fait, c'est un peu égoïste au début. Avec François, on s'est assez rapidement rendu compte qu'on se retrouvait autour du plaisir d'aller découvrir la cuisine de d'autres et de ce qu'ils avaient à partager avec ça. Et on s'est rendu compte que ce qu'on aimait manger, c'était souvent des produits qui étaient assez proches du brut. Et donc qu'avait nécessité que celui qui l'avait produit soit exigeant et qu'on avait envie nous aussi de pouvoir proposer quelque chose dans la gastronomie qui soit proche de ça. Et au hasard un peu de nos balades et des découvertes qu'on a fait ensemble de différents endroits, on a rencontré des gens qui étaient des paysans qui avaient leur exploitation de fruits et qui s'étaient mis à fabriquer de la glace. Et ce jour-là, on s'est dit que de la glace comme ça, on n'en avait pas mangé souvent et qu'en tout cas, elle n'existait pas ici et que c'était un produit comme ça que nous, on avait envie de fabriquer et de proposer aux autres.
François, c'est un risque énorme, j'imagine. Je connais pas le marché de la glace en France globalement, mais proposer ce type de produit, c'est très singulier. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se fasse ailleurs, au moins sur le territoire angevin, de proposer de la glace en plus très locale comme ça.
Alors c'est vrai que le marché de la glace, en France particulièrement, c'est un marché qui est en réveil, dans le sens où il était endormi, mais aujourd'hui c'est un marché qui est vraiment en réveil, que ce soit de la part des consommateurs, et puis du coup de l'offre qui est proposée, puisqu'il y a plein de gens qui aujourd'hui cherchent à valoriser leur production, que ce soit sur le lait ou sur les fruits, autour de produits autour de la glace. Maintenant, moi, sur le truc sur lequel je voulais retenir votre attention, c'est qu'on a la Vallée de la Loire qui nous propose une nature formidable, et puis avec un climat super tempéré, et J'ai déjà rencontré des gens qui appelaient cela le jardin de la France, et avec Manu, c'est vraiment une idée qu'on partage. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des denrées qui étaient à notre disposition, et puis que dans la région, effectivement, personne n'avait encore pris le clic de mettre en valeur ce terroir qu'on a autour de la Loire. Et on s'est rendu compte que on avait tout pour bien faire à ce niveau-là, proposer une offre vraiment sourcée ultra localement. Quand je dis ultra localement, c'est autour d'Angers, département à l'ouest et département à l'est. Donc déjà avec ces 100 km d'est en ouest, on a une infinité de petits fruits, de fruits plus ou moins gros, etc., à transformer et à valoriser. Donc déjà pour un sourcing local. Pour un produit avec une agriculture qui défend la défense de l'environnement, donc sous couvert du label bio, et puis les paysans qui produisaient du lait. On est une vallée où les vaches se sentent bien, qui produisent du lait de qualité, etc., 12 mois sur 12. Moi, j'ai la chance d'avoir des paysans qui font un super travail en bio dans ma commune, à Saint-Clément-de-la-Place, monsieur et madame Pichot, pour encore une fois ne pas les citer, et c'est à 18 km de notre laboratoire. Donc le circuit est super court. Nos clients, ils sont pas chinois, ils sont pas anglais, ils sont pas hollandais, ils sont bien angevins pour la plupart. Enfin, en tout cas, on commence par eux, et on commence même le mercredi et le samedi, et d'ailleurs tout au long de la semaine, puisqu'on est ouvert du lundi au samedi, et on a des clients, étonnamment, même au mois de janvier, qui viennent nous voir, alors pour de la glace, pour des produits dérivés, pour des petits biscuits, pour des bâtonnets, pour plein de choses. Et on se rend compte que les consommateurs, ils trouvent un certain épanouissement, et puis une vraie raison de consommer en allant chez leurs voisins. Ils se rendent compte que les fruits qu'on transforme, ils viennent du secteur, et en fait la boucle est bouclée, et ça a beaucoup de sens. Donc nous, de défendre ces valeurs-là et puis de proposer une offre là-dessus, et dans les yeux de nos clients, on comprend bien que c'est cohérent, et ça donne de l'énergie au quotidien.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Une interview diffusée le 7 février. Tout de suite, on essaie de deviner un événement historique en 2 minutes grâce au Graal.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. L'art est quelque chose de subjectif, mais ne pas aimer les œuvres d'un peintre peut mener à une guerre mondiale. Il a 16 ans et est plein d'espoir. Son rêve, entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Il se présente alors avec ses peintures pour passer le concours. Malheureusement, les profs, même s'ils lui trouvent un certain talent, ne pensent pas que ce jeune homme a les qualités pour devenir un artiste. Il avait toutefois un plan B. L'architecture faisait aussi partie de ses souhaits de Parcoursup. Mais il fallait des diplômes de base, et il ne les avait pas. On comprend pourquoi ce garçon avait la haine. Surtout que déjà tout petit, il avait un comportement des plus agités. Sa mère l'avait même envoyé dans un institut psychiatrique à Vienne, sans doute celui dirigé par Sigmund Freud. Mais je me rends compte que je ne vous ai pas encore donné le nom de ce garçon frustré et turbulent. Il s'appelait Adolf Hitler. S'il avait été accepté à l'Académie, ou même si Freud l'avait suivi, il est probable que l'histoire du monde en fût changée. À bientôt pour un autre Graal de l'Histoire.
Et 47 minutes tout pile que j'anime l'émission, plus que 3 petites, c'est beaucoup pour vous annoncer le reste de la semaine de Topette, puisque ce soir c'était la dernière tout simplement. Demain l'équipe de l'émission va comme tout le monde commémorer les conquêtes des travailleurs, et jeudi, à la demande insistante de Pierre Benoît, nous faisons le pont. On se donne rendez-vous donc lundi prochain, nous serons avec JB de Mamie Cyclette qui va nous parler du principe de son entreprise. En deuxième partie d'émission, Ryan et Willy nous parleront du défi 49h pour E49. Mardi nous recevrons le Shabada. Mercredi et jeudi, c'est encore férié. Et Pierre Benoît, dis-moi, est-ce que ça s'est bien passé?
De quand?
Bah là, cette émission.
Content
de ma prestation.
Bah écoute, moi, je suis parti manger un truc entre temps.
C'est vrai qu'on t'a pas beaucoup vu.
Je réécouterai le podcast pour savoir si ça s'est bien passé. En tout cas, toi, tu t'es bien senti?
Bah génial, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Bah écoute, c'est ce qui compte. Merci à Thomas de nous avoir soutenus aussi tout au long de cette émission.
Oui, c'est vrai, Thomas, un avis peut-être sur ma prestation aussi.
10 sur 10.
Et bah c'est génial.
Et bah écoute, merci beaucoup. Voilà. Un petit mot, Mathéo, pour souhaiter un bon week-end aux personnes?
Et bah oui, on vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Profitez bien de ce mercredi de repos. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, pardon, et Topette.
instant va commencer l'émission Dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce